Écoute une fois.
Bonjour Chloé.
Bonjour Céline.
Alors dis-moi Chloé, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui je vais vous raconter un conte. Alors c'est un conte traditionnel, un conte russe qui a été adapté dans plein de versions. Qui s'appelle La Moufle.
Et donc dans La Moufle, on s'en va en promenade avec toi dans la neige. Et quand on va dans la neige,
il faut prendre son bonnet, son écharpe et surtout, surtout ne pas oublier ses moufles.
Ses moufles.
Là, c'est une version de Florence Desnouveaux et de Cécile Udrisier que je vais vous lire.
Aux éditions Didier Jeunesse.
Effectivement. C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin.
Crutch, crutch, crutch.
Souris vient à passer par là. Elle voit la moufle.
Oh, quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y a quelqu'un ?
Personne ne répond.
S'il y a personne, c'est pour ma pomme.
Souris se faufile et se camoufle dans la moufle.
Quelle douceur !
Souris est ravie.
Crutch, crutch, crutch.
Mais
qu'est-ce que c'est ? Souris entend des bruits de pas et une voix.
Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y a quelqu'un ?
Oui, il y a moi, Souris !
Répond Souris du fond de la moufle.
Et toi, qui es-tu ?
Je suis lièvre, j'ai froid, je peux entrer ?
Oui, oui !
Répond Souris. Lièvre se faufile et se camoufle dans la moufle tout contre Souris.
Ah, quel bonheur ! Soupirent-ils en chœur.
Maintenant, ils sont deux dans la moufle, lièvre et Souris.
Crutch, crutch, crutch.
Encore ! Lièvre et Souris entendent des bruits de pas. Et encore une voix.
Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y a quelqu'un ?
Oui, oui, il y a nous, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu ?
Je suis renard. Je peux entrer ? J'ai si froid.
Mais viens donc !
Répond souris. Renard se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre lièvre et souris.
Ah, quelle chaleur ! Soupirent-ils en chœur.
Maintenant, ils sont trois dans la moufle, renard, lièvre et souris.
Crutch, crutch, crutch.
Cette fois, renard, lièvre et souris entendent de gros bruits de pas et une grosse voix.
Quelle aubaine, une maison de laine. Y a quelqu'un ?
Oui, oui, il y a nous, renard, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu ?
Je suis sanglier, je suis gelé. Je peux entrer ?
Bon, d'accord, il reste un tout petit peu de place, répond souris.
Sanglier se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre renard, lièvre et souris.
Ouh là là, quelle erreur ! Soupirent-ils en chœur.
Maintenant, ils sont quatre dans la moufle, sanglier, renard, lièvre et souris.
Crutch, crutch, crutch.
Sanglier, renard, lièvre et souris entendent d'énormes bruits de pas et une énorme voix.
Tiens, une maison qui bouge, y a quelqu'un ?
Oui, oui, il y a nous, sanglier, renard, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu ?
Je suis ours potelé. Je peux entrer ?
Il n'y a plus de place, répond souris.
Ah bon ? Je peux voir ?
Ours potelé passe sa tête dans la moufle.
Crutch.
Ours potelé passe une patte dans la moufle.
Crutch.
Ours potelé passe une deuxième patte dans la moufle.
Crutch.
Ours potelé pousse son ventre rebondi dans la moufle.
Crutch.
Ours potelé pousse tout son corps dans la moufle.
Crutch.
Mais quand il veut faire entrer le bout de sa queue,
crac !
La moufle craque. Sanglier, renard, lièvre et souris tourne-boule dans la neige. Il se redresse, ses brous se regardent et il se disperse à toute vitesse. Quant à Ours Potelé, il reste assis, tout hébété sur la moufle éclatée.
Mais qu'est-ce qu'il s'est passé?
C'est comme ça, le conte finit là.
Et voilà, c'était une version de ce joli conte La Moufle, un conte que l'on retrouve à la bibliothèque, ainsi que d'autres versions de La Moufle. À bientôt Chloé.
À bientôt Céline, merci.
Culturel
indispensable qui sert à rien.
Si.
Non.
Si, si.
Ça sert à rien.
Ouais, si. Adolphe Chaillet est né le 15 juillet 1867 à Paris.
Ah bon ?
Il est mort le 26 juillet 1940 à Trappes-Kéhuen.
Non.
En 1892, il émigre aux États-Unis pour fabriquer des ampoules dans le Massachusetts.
C'est pas vrai.
Le 28 février 1898, au nom de son employeur, la société Shelby Electric Company, il dépose le brevet d'une lampe à filament de carbone, une ampoule de 60 watts soufflée à la main avec une douille électrique.
Incroyable.
L'une de ces ampoules est installée en 1901. Dans la caserne de pompiers de Livermore en Californie. Cette ampoule fonctionne encore aujourd'hui. Elle a été allumée quasiment sans discontinuer depuis 1901 et a fêté en 2015 son million d'heures de fonctionnement.
C'est fini ?
En 1932, Bernard London, agent immobilier new-yorkais, est l'auteur du livre « Pour en finir avec la Grande Dépression grâce à l'obsolescence planifiée ouais. ». C'est intéressant, non ?
Super, Daniel. Merci.
La minute
culturelle
indispensable qui sert à rien.
Si.
Non.
Si, si.
Ça sert à rien.
Ouais, si.
Radio Oulala.
Bonjour Marie et Alexia.
Bonjour. Bonjour.
On va parler BD aujourd'hui. Vous mettez en place à la médiathèque un prix. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ?
Oui, alors c'est un prix BD. Il s'agit du prix BD Bulle. C'est la 10e édition cette année. C'est à destination du public adulte, donc à partir de 15 ans. Et il y a 12 bandes dessinées dans la sélection. Il faut être inscrit à la médiathèque et s'inscrire au prix pour pouvoir en emprunter une et participer à ce prix.
Vous nous parlez un petit peu de la sélection, de la manière dont vous vous organisez pour choisir les bandes dessinées ?
Oui, Marie et moi, nous lisons plusieurs bandes dessinées avant de faire notre choix, puisqu'on est attaché à choisir différents genres, aussi bien policiers, science-fiction, biographie, les adaptations aussi de romans qui sont très fréquentes et courantes maintenant. Des tranches de vie, voilà, différents genres. Et puis, il nous faut aussi des bandes dessinées qui sont en one shot, un seul volume. Et également, on prend le temps aussi de discuter autour du graphisme. On aime bien aussi choisir des pratiques artistiques très différentes et peut-être tourner vers moins du grand public. Donc, on aime bien faire des belles découvertes.
Tout de suite, on va écouter une interview de l'auteur Nicolas Juncker, auteur qui en plus est né à Sablé.
Bonjour Nicolas Juncker.
Bonjour.
Nous avons le grand plaisir de vous interviewer. C'est dans le cadre de notre prix BD Bulle. Nous avons sélectionné 12 bandes dessinées et la vôtre, seule à Berlin, en fait partie. Donc, nous avons décidé de vous poser quelques questions, notamment, nous sommes curieux de savoir votre parcours, comment en êtes-vous venu à être auteur et dessinateur de bande dessinée.
Merci déjà pour la sélection, c'est gentil. Mon parcours, il est assez simple, je n'ai pas de parcours artistique du tout. J'ai fait des études d'histoire, j'ai un bac B, économie. Je suis autodidacte, donc j'ai dessiné de mon côté. Depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant, je dessine et je fais des bandes dessinées. Et j'ai toujours eu un peu l'idée d'en faire, donc j'ai envoyé des projets qui n'ont pas trop marché, jusqu'en 2000, début des années 2000, où je travaillais sur une maîtrise d'histoire sur la Première Guerre mondiale au cinéma. Et ça m'a donné des idées de narration en bande dessinée. J'ai envoyé un projet, et puis ce projet-là s'est fait. C'était ma première bande dessinée, Le Front. Et puis après, c'est parti comme ça. J'ai eu une première BD, et puis après, du coup, j'ai proposé un deuxième projet qui a été accepté, puis un troisième, un quatrième, etc. Voilà.
Très bien. Et donc, pour cette bande dessinée, vous avez choisi une période historique particulière avec des personnages féminins. Pourquoi ?
Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. J'ai fait beaucoup d'histoires avec beaucoup de personnages masculins auparavant. Et ça me manquait un peu de me confronter à en tant que narrateur à des personnages féminins. J'avais lu aussi plusieurs témoignages féminins liés à la Seconde Guerre mondiale qui m'avaient beaucoup marqué, dont celui des deux narratrices, mais aussi le livre de Svetlana Alexievitch, que La guerre n'a pas un visage de femme, ou d'autres témoignages divers et variés, comme ceux de Irène Mirovski ou d'autres. Il me semblait qu'il y avait un point de vue original et assez peu raconté, surtout sur le front de l'Est. En fait, on a des témoignages de femmes françaises ou juives vivant sous occupation, déportées, mais de femmes allemandes qui vivent donc la fin du Troisième Reich ou russes intégrées à l'armée rouge, beaucoup moins. Donc c'était un point de vue qui était important, ne serait-ce que pour toute l'histoire et les thématiques qui vont être abordées dans ce livre, notamment la question des viols massifs à Berlin et le statut de la femme au sein de l'armée rouge.
Nicolas, comment vous travaillez en fait sur vos scénarios ? Est-ce que vous avez un temps très important de recherche, de documentaire ? Est-ce que vous avez juste vos connaissances ou voilà, est-ce qu'il vous faut beaucoup de temps pour travailler sur le récit ?
Ça dépend complètement des projets, ça dépend des récits évidemment. Celui-là m'a demandé beaucoup de temps, parce qu'il était assez complexe. Parce qu'il soulevait des thématiques assez lourdes, que j'étais pas sûr de maîtriser, pas tant d'un point de vue historique, mais que d'un point de vue d'auteur, c'est-à-dire de parler en tant qu'homme au nom de deux femmes qui subissaient notamment des viols. En vrai, c'était pas évident. Il y avait plusieurs histoires entremêlées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la description de la vie quotidienne à Berlin à la fin du Troisième Reich. Il y a donc l'histoire des femmes des Berlinoises, de ce qu'elles subissent avec l'arrivée de l'armée rouge. Il y a cette enquête sur la recherche du corps d'Adolf Hitler, parce que la personnage russe, elle, fait partie d'un petit groupe, c'est une histoire vraie, qui est chargée de retrouver, d'identifier le corps d'Hitler. Il y a plein de petites. Du coup, il y a beaucoup d'histoires qui s'imbriquent et c'était un peu compliqué. Enfin, je sais que mon éditeur m'avait dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes finalement ? C'est un polar, c'est de la recherche du corps d'Hitler, c'est une histoire de femme, c'est une vie quotidienne, c'est une tranche de vie, qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a eu beaucoup de travail. Bon, la documentation, ça a été assez rapide, mais ça fait plusieurs années que je le porte, ce projet, ça fait pas loin de 10 ans. Mais il y a eu plusieurs versions. Il y a eu beaucoup de versions remaniées, refaites. Au départ, ça devait être fait par un autre dessinateur, puis qui a abandonné le projet au bout d'un an avant que je me mette moi dedans. Donc, il y a eu pas mal de travail de réécriture. Pas la recherche, oui, bien sûr, mais la recherche, c'est pas difficile, parce que sur cette période-là, des livres, il y en a à foison, des images, il y en a à foison, des films aussi. C'était plus au niveau de l'écriture. J'étais pas sûr de moi, en fait.
D'accord. Oui, justement, vous avez évoqué le fait que ça devait être peut-être une autre personne au dessin. Mmh. Et oui, donc là, vous êtes seul auteur-illustrateur et ça vous a aussi demandé plus d'investissement, je suppose.
Oui, bien sûr. En fait, au départ, je voulais pas être. J'avais peur de ne pas avoir les épaules. Et puis, comme le projet était un peu lourd, je me suis dit, c'était pas plus mal d'être deux pour le porter. Et puis en fait, ça a fait histoire avec un dessinateur et puis qui a abandonné au bout d'un an pour des raisons personnelles. Et puis après, j'ai pas trop trouvé d'autres dessinateurs ou dessinatrices. Je cherchais aussi une femme, je me dis que ce serait pas mal d'avoir une femme à mes côtés. Oui. Et puis j'en connais certaines, quoi. Mais ça s'est pas fait. Jusqu'à ce que je rencontre un éditeur, Casterman, Martin Zeller, qui me demande ce que j'avais en cours. Il connaissait mon boulot, lui, d'avant. Et quand je lui ai parlé de ça, c'est lui l'un des premiers qui m'a dit « Mais pourquoi c'est pas toi qui le dessine ?» Donc, je lui ai expliqué pourquoi. Et lui, il m'a dit qu'il trouvait ça con. En fait, il trouvait que, vu la thématique, vu le côté assez lourd, il m'a dit « Ça peut être quelque chose de personnel, il n'y a que toi qui peux le faire. Ça, c'est pas un truc que tu peux donner à un dessinateur comme ça, un peu mercenaire. Il faut que ça te sorte des tripes, il faut que ça te sorte du vent. Donc, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est à toi de le faire, ce truc-là. » Et donc, du coup, je me suis mis dedans. Je m'attendais pas du tout. Et en fait, très vite, quand je me suis mis dedans, c'est un peu venu, quoi, en fait, quoi. C'est en mangeant bien appétit. Et puis très vite, les dessins des deux personnages féminins sont venus, les décors. Bon, après, c'est un univers que je connais très bien parce que j'avais déjà fait une série sur le Troisième Reich, donc je connais plutôt bien les décors de Berlin. C'est pas très gay, mais tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale et Troisième Reich. Donc j'avais déjà des repères. Et ça s'est fait assez vite. Après, je savais déjà que je voulais du lavis, du fusain, je voulais des niveaux de gris, je voulais quelque chose d'assez gris, d'assez sombre, d'assez pâteux. Donc après, ça a été assez rapide, en fait, la suite. Ça s'est fait rapide.
Très bien. Et donc, vous êtes plutôt un auteur de bande dessinée historique, hein, d'après votre bibliographie. Est-ce que vous avez envie de vous essayer à un autre genre ?
Alors là, je viens de faire une série qui vient de sortir, Octofight, qui est plutôt de la l'anticipation, la politique fiction, un truc qui se passe en France en 2050, assez comique, enfin dramatique et comique. Mais c'est vrai que c'est le seul contre-exemple, sinon je fais que des BD historiques. Oui, là je suis en train de dessiner une BD qui se passe de nos jours, en 2020-2022. Mais tout ça reste un peu des exceptions, comme je suis assez branché histoire. En tant que dessinateur, j'aime beaucoup dessiner des choses qui n'existent plus. Faire du travail de recherche, de documentation, dessiner des vêtements qui n'existent plus, dessiner des accessoires, des véhicules, tout ça, ça me plaît beaucoup. Ça m'emmerde un peu de dessiner des choses que j'ai sous les yeux tous les jours, quoi. Des voitures, des vélos, des costumes cravates, des trucs comme ça. Ça me passionne pas des masses, quoi. Voilà. En même temps, c'est marrant des fois, mais c'est pas mon plus grand plaisir, quoi. Donc je reste plutôt sur des trucs historiques, quoi.
Bon, puis il y a d'autres auteurs qui le font aussi, donc...
Ils le font bien mieux que moi. Ouais.
Non, mais nous avons vraiment, vraiment adoré cette bande dessinée. Nous espérons aussi que le public répondra favorablement. Est-ce que vous avez un autre projet d'une grosse série ou ce sera plutôt peut-être un one-shot ou vous avez d'autres choses en cours?
Alors oui, la prochaine BD qui va sortir, c'est au scénario seulement, je ne sais pas si c'est au printemps ou à l'automne en 2021, c'est avec François Bouc au dessin. C'est historique encore, c'est un one shot de 120 pages sur le coup d'état de mai 58, sur comment De Gaulle est arrivé au pouvoir, de manière racontée de manière un peu comique, parce que c'est assez comique finalement de voir comment la 5e République est arrivée. Donc ça s'appellera Un général des généraux, c'est une petite farce sur les généraux d'Alger et le général de la métropole en mai 58. Donc ça va être dessiné par François Bouc, aux éditions du Lombard. Et après, moi, je dessine là un projet dont je parlais, qui se passe de nos jours, qui est un peu satirique, un peu plus grave, toujours sur la guerre d'Algérie, sur un maire, une historienne, un artiste qui se prennent le chou sur l'érection d'un mémorial dédié aux victimes de la guerre d'Algérie en Provence en 2022. Et c'est assez compliqué. On va le voir là, parce que Benjamin Stara vient de remettre un rapport. Donc je suis toujours branché histoire. Oui. Mais autant sur la manière dont on transmet l'histoire que ce qu'elle raconte. Parce que raconter la guerre d'Algérie, finalement, m'intéresse pas tant que ça. Par contre, essayer de réfléchir à comment raconter la guerre d'Algérie aujourd'hui, ça me semble vraiment passionnant. Et surtout, c'est évidemment d'actualité, mais ça me semble vraiment important pour les années à venir. C'est pas pour rien que le gouvernement a demandé un rapport à Benjamin Stara, qui est déjà un brûlot et qui s'en prend déjà plein la tronche de tous les côtés. Et ça m'étonne pas. Donc, ça me plaît bien de faire une bande dessinée un peu satirique et comique là-dessus, sur l'impossibilité de raconter la guerre d'Algérie aujourd'hui. Voilà. Voici le projet.
Très bien, nous suivrons ça attentivement.
Merci.
Eh bien, Nicolas, on va terminer avec une petite anecdote, juste pour informer le public. On a eu la surprise de découvrir que vous étiez né à Sablé. Donc, ce n'est pas ce qui nous a influencé dans notre choix, mais voilà. Donc, on aurait bien aimé vous accueillir, peut-être une prochaine fois, si les conditions nous le permettent.
Avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et plein de beaux projets.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci pour cette interview. Est-ce que vous voulez rajouter deux mots pour conclure ?
Vous pouvez toujours retrouver sur notre page Facebook de la médiathèque ou sur le site de la médiathèque toute la sélection avec les titres, les auteurs. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir nous voir pour emprunter les bandes dessinées.
En plus, on pourra vous les présenter si besoin. Et pour rappel, vous avez jusqu'au mois de juin pour participer et pour voter pour les bandes dessinées que vous aurez préférées. À bientôt.
Merci.
Merci, au revoir.
On dit à la cour que Molière n'a d'oreille que pour elle.
Et enfin, de qui parlez-vous ?
De la radio, oulala !
Le PPT !
Le pot-pourri théâtral de Juéda !
C'est l'heure du PPT !
Le pot-pourri théâtral de Juéda !
Popourri. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, public invisible.
Bienvenue dans le Popourri théâtral avec Juéda.
C'est nous et nos invités.
Donc présente-nous donc nos invités, Daniel.
Alors nous avons ce soir le grand comédien Ulysse David.
Bonsoir.
Merci d'être venu, Ulysse de Paris.
Hein, merci.
C'est ça fait merci vraiment très plaisir de vous accueillir.
Merci de l'invitation.
Et vous avez amené avec vous une comédienne de la comédie française, c'est ça ?
Oui, c'est Françoise Poussier-David.
Tout à
bonsoir.
Fait.
Bonsoir.
Bonsoir Françoise, c'est un honneur de vous recevoir.
Merci. On a fait le conservatoire ensemble.
D'accord.
Oui, c'est beau. Oui, on a essuyé les plâtres.
Ah, n'est-ce pas ?
De grandes improvisations voilà. Ensemble. Oui.
Il vous en reste un peu dans les cheveux d'ailleurs.
Ah oui, d'accord. Plâtre.
Alors aujourd'hui, on va s'immerger dans l'humour qui grince, l'humour absurde, avec trois auteurs. Et nous allons commencer par Jean-Claude Grinberg, donc dramaturge, scénariste et écrivain bien connu, n'est-ce pas ? Et nous commençons avec des fragments de « Ça va », édité chez Actes Sud, avec Ulysse et Daniel, en direct.
Ça va ?
Pas mal, et toi ?
T'as pas honte ?
De quoi ?
Tu peux dire pas mal et toi avec tout ce qui se passe.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Non mais ça va pas chez toi ?
Bah si, justement, ça va pas mal, je te dis.
Mais où vis-tu ? Où vis-tu ?
Bah 32 rue des Petits Hôtels, Paris 10e.
Pourquoi tu me donnes ton adresse ?
Bah parce que tu me le demandes.
La pollution, les guerres, le racisme...
La faim, n'oublie pas la faim.
La faim, le chômage, le réchauffement...
La fonte des glaces...
On sera 9 milliards dans 30 ans. 9 milliards de soifards qui manqueront d'eau douce et qui crèveront la gueule ouverte sous un cagnard d'enfer les pieds dans la boue. Et toi, tu me dis, pas mal, merci.
Ah oui, pour l'instant, pour moi, ça va pas mal.
Ah, tu me débecques, tu sais.
Oh bah excuse-moi, mais...
Ta gueule. Des mecs comme toi méritent pas de vivre.
Désolé, mais...
12 balles dans la peau, fusillé dans le dos.
Sympa.
Tu lis pas les journaux. Tu regardes pas la télé.
Bah si, si, mais... Mais te bile donc pas.
Que je me bile pas.
On sera qualifié au golavérage.
Comment ça ?
J'ai refait le décompte. On sera deuxième de notre poule.
Sans avoir gagné un match ?
Mais on n'a pas perdu.
Faut que tu m'expliques. Comment sans gagner un match on pourrait être qualifié ?
C'est mathématique.
Je crains que tu ne prennes tes désirs pour des réalités.
C'est mathématique.
Explique.
2-2. 3-3. 0-0.
Oui.
Les Bulgares, 2-1. 1-4. 0-0. Tu me suis ? Le Danemark, 4-1. Mais 0-5. 3-3. Tu me suis ?
Je te suis toujours. Où on va ?
Au café.
Ok.
Le Guatemala ?
Le Guatemala dans notre poule ?
Non !
Je comprends rien.
Oh, t'es pas bon en maths. Hein.
Moyen, moyen.
Moi, c'était l'histoire géo.
Numéro 20. Ça va ?
Pas des masses, figure-toi que...
Ah stop, attention, je te signale que tu t'apprêtes à franchir la ligne jaune.
Quelle ligne jaune ?
Je te dis en passant, ça va, et toi au lieu de me dire, pas mal et toi ? Tu t'arrêtes et tu t'apprêtes à me raconter ta vie.
Je m'apprête à répondre à ta question, oui.
Je ne t'ai pas posé de question, je t'ai dit, ça va ? comme j'aurais pu te dire bonjour.
Tu m'aurais dit bonjour, je t'aurais dit que ce jour-là, hélas, ne pouvait pas être bon pour moi, rapport à...
Incroyable, mais incroyable! Je n'en crois pas mes oreilles.
Attends, je t'ai pas encore dit le principal.
Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas. Tu m'entends?
Pourquoi tu me demandes si ça va, alors?
Je ne te demande rien.
Excuse-moi, j'ai cru entendre...
Ça va est une formule de politesse, mise au point après des siècles de civilisation judéo-chrétienne. L'islam y a recours également. Formule qui permet à deux êtres équilibrés, sains et civilisés, de se croiser sans avoir à entrer dans les détails sordides et personnels de la vie intime de chacun.
Chez moi, c'est pas sordide, c'est médical.
Arrête ! Tu crois que j'ai pas assez d'ennuis ? Mon boulot, ma santé, ma famille, mes enfants.
Tes enfants aussi ?
Et comment ? Mais tu connais le proverbe ? Petits enfants, petits soucis, grands enfants. Ah bah t'as pas d'enfants, toi.
Hélas, non.
Hélas, non. Mais t'es malade, malade ! Hélas, non. Tu connais pas ta chance. Hélas, non. Mais fais-toi soigner.
Justement, c'est de ça que...
Arrête ! Je ne veux pas le savoir. Compris ? Je ne veux pas le savoir. Je sors moi-même de l'hosto, où j'ai subi un examen tout ce qu'il y a de plus désagréable à l'intestin. Et tu sais quoi ? Ces cons de Toubib m'ont trouvé une tumeur. Une tumeur !
Maligne ?
Ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas encore. Ils seront dans 3 semaines. Et moi, je dois attendre et déféquer dans des bocaux en attendant.
Ben, la mienne est...
Arrête ! Mais où t'as été élevée pour jeter tes malheurs privés comme ça à la tête de gens que tu connais à peine ?
On se connaît à peine ?
Ben, je sais. On a été à l'école ensemble.
Et au lycée ?
Mais ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans.
On a fait notre service civique obligatoire ensemble aussi.
Ok, d'accord.
Et en plus, on travaille depuis 25 ans dans la même boîte.
Ouais, mais pas au même étage.
Pas au même étage, c'est vrai.
Quoi qu'il en soit, rien ne t'autorise à te jeter sur moi en pleine rue pour me déverser tes malheurs sur la tête.
Mais je voulais juste répondre à ta question.
Mais quelle question ?
Ça va ?
Pas mal, et toi ?
Moi, ça va pas, je suis dans la merde, question santé.
Ah, mais tu me rends dingue. Tu me rends dingue, tu sais. Je regrette amèrement de t'avoir lancé « ça va » en passant.
Ouais, aujourd'hui, t'es mal tombé parce qu'aujourd'hui...
Et tu veux absolument abolir des siècles de civilisation. C'est l'âge de pierre que tu veux restaurer. C'est ça que tu veux, l'âge de pierre?
Pas du tout.
On t'a déjà dit que t'étais un extrémiste.
Jamais.
Eh bien, moi, je te le dis.
Un extrémiste ?
Doublé d'un terroriste. En plus, tu vas finir par nous faire pointer en retard.
Moi, je pointe pas, je peux plus travailler rapport à mon...
Ah, tais-toi, je te tue.
Tu sais, franchement, au point où j'en suis, ça me ferait ni chaud ni froid.
Juste une chose, dis-moi franchement, à part ta santé, ça va ?
Ça va.
Eh bien, tu vois quand tu veux. Allez, salut.
Salut, bonjour chez toi.
Et n'abuse pas de ta condition de célibataire, tu veux ? Sinon, moi aussi, je vais finir par te raconter ma vie. Et crois-moi, elle n'est pas jolie. Oh,
qu'est-ce qui t'arrive ?
Ta gueule ! Volcan ! Provocatrice, perverse, fumier, célibataire !
Ça va ?
Ça va !
T'as froid ?
J'ai pas froid !
T'as l'air d'avoir froid ?
J'ai pas froid !
Ça sert à rien de se couvrir quand on a froid !
J'ai pas froid !
Faut manger quand on a froid !
J'ai pas froid !
Si t'es trop couvert, au moindre changement d'air...
Pas trop couvert !
On peut pas dire qu'il fasse chaud !
J'ai pas chaud !
Et t'es comme hiver, moi, je porte ça !
Ça vous va bien ?
Là n'est pas la question !
Est-ce que je prie, vous ?
Ni chaud, ni froid, moi jamais !
Moi non plus !
Toi non plus quoi ?
Comme vous !
Hein ? T'as pas froid ?
Pas froid !
T'as pas chaud ?
Pas chaud !
C'est parce que t'es pas trop couvert !
Trop couvert !
Trop couvert, tu sues !
Je suis pas !
Et au moindre couille en l'air !
Couille en l'air !
Surtout quand t'as chaud !
Pas chaud !
Sûr !
Affirmatif !
Ni chaud ni froid !
Affirmatif !
Bon, faut-il se couvrir quand on a chaud ? Prends ton temps !
Négatif.
Ah, ces petits gars comme lui, c'est ce qu'il nous faut.
À vos ordres.
Fixe repos. On se tient droit, même au repos.
Affirmatif.
16 sur 20. Prometteur.
Ça va?
Non.
Bah, qu'est-ce qui va pas?
Bah, j'ai envie de me foutre en l'air.
Encore?
Bah, pourquoi encore?
Il y a un an.
Il y a un an?
Ou deux?
Deux ou un?
On s'est croisés.